épisode 31 de la French Connection. Cette semaine, pour une deuxième fois en peu de temps, je vais mettre encore seul à animer le podcast. C'est encore un épisode spécial qui finalement est tourné dans un épisode qui est seul. Étant en plein milieu de la semaine de relâche, les gens sont un peu plus difficiles à rejoindre. Donc, commençons rapidement avec une nouvelle du gouvernement britannique qui vient d'émettre un guideline ou un guide qui aide les compagnies concernant l'Internet of Things qui, dans le fond, énonce un certain nombre de choses à faire et ne pas faire avec les objets connectés. Ce qui est une chose qui est très bienvenue puisque à l'heure actuelle, on a un énorme problème généralisé de manufacturiers qui développent des objets connectés avec une sécurité relativement faible. Puis d'ailleurs, on va avoir une nouvelle à ce sens un peu plus loin dans l'épisode. Mais essentiellement, donne un certain nombre d'éléments pour aider les compagnies. Cela étant dit, comme les objets connectés sont souvent déployés rapidement pour une commercialisation rapide et à court cycle, je ne suis pas nécessairement convaincu que les compagnies vont adhérer à ce genre de choses-là. Et pour la plupart, c'est des choses qui sont quand même malgré tout connues par la plupart des professionnels en sécurité. Donc, il n'y a comme pas une énorme surprise. Donc, peut-être que ça va guider. Puis à terme, mais au lieu d'être juste des lignes directrices, il faudrait que ce soit carrément un cadre juridique ou un cadre réglementaire de quelque nature qui soit pour, à ce moment-là, venir appuyer davantage les différents éléments. Fait qu'on va voir peut-être dans les prochains mois ou années, les gouvernements vont peut-être intervenir davantage là-dedans pour amener l'industrie qui malheureusement ne peut pas se réguler par elle-même, aller augmenter le stade de protection des différents équipements qui vont devenir critiques dans différentes sphères de nos vies éventuellement. Deuxième nouvelle, Facebook a déployé le HSTS sur l'ensemble de son infrastructure. C'est un composant qui oblige l'utilisation de communications sécurisées HTTPS sur les liens dans lesquels ils mettent visibles. Ça va assurer une meilleure protection sur l'ensemble des navigations qu'on fait sur Facebook. En même temps, c'est un peu ironique puisque avec les différentes déclarations, en tout cas, éléments qu'on connaît de Facebook en général, d'un côté, protègent la connexion entre eux et nous, mais en même temps, est-ce qu'ils font le même degré de protection de l'information qui conservent et qui utilisent sur nous? Fait que c'est une chose qui est un peu paradoxal dans le modèle d'affaires de Facebook, mais j'imagine que on verra éventuellement le déroulement de ça. Autre nouvelle, faille de sécurité dans les réseaux 4G ou LTE, tout dépendant comment les compagnies décident d'appeler ça. Essentiellement, ils ont découvert des failles dans la façon que le protocole utilisait ou ça dépendait en tout cas en général sur des notions de sécurité par l'obscurité, ce qui n'est jamais une bonne solution d'appuyer la sécurité sur l'obscurité puisque une fois que le mécanisme est trouvé, la sécurité est de façon définitivement brisée à ce moment-là, donc c'est un peu plus problématique. Dans ce cas-ci, c'est des numéros qui n'étaient pas aléatoire, qui n'était pas aussi aléatoire que ça, puis il y avait un certain nombre d'éléments dans l'implantation du protocole qui n'étaient pas à la hauteur de ce que auraient dû être les implantations LTE à travers les différents grands télécommunicateurs. Donc j'imagine que ceux-ci vont apporter les correctifs nécessaires dans les prochaines semaines, j'espère, ou les prochains mois, ou pire, pour rehausser un peu la qualité de la sécurité de nos téléphones cellulaires, puisque pour la plupart des gens, on assume qu'un certain degré de confidentialité dans la communication au cours du chiffrement entre la tour et le téléphone. Si cet élément-là n'est pas tout à fait aussi véridique, ben à ce moment-là, c'est peut-être un peu plus problématique pour les, en tout cas, du moins ce qu'on assume pour la plupart, mais j'imagine que la part de beaucoup de gens en sécurité ne font pas énormément confiance de toute façon à ce degré de protection-là, surtout avec les différents tours fantômes qui circulent ou en tout cas qu'on entend beaucoup parler qui peuvent intercepter et rerouter nos appels de toute façon vers des infrastructures qui sont tiers. Autre nouvelle, 23 000 certificats HTTPS ont été divulgués par le propriétaire d'une compagnie d'émission de certificats de fait et envoyé par courriel les clés privées des 10 certificats. Donc, ça l'a de facto mis en désuétude ou en mode compromission tous ces certificats-là. Donc, toutes les compagnies qui utilisaient ces certificats-là se sont trouvées dans une situation qui est un peu embarrassante et à ce moment-là, de ce genre de choses-là. La compagnie en question, Trustico, dans ce cas-ci, qui a été rachetée par un autre en cours de chemin, avait dit que ces clés privées-là étaient stockées dans du stockage froid, ou cold storage en anglais, qui est essentiellement du stockage hors ligne. Mais malgré cet aspect-là des choses, c'est quand même troublant que cette manipulation-là puisse être faite d'extraire dans des stockages offline, d'amener ça, puis envoyer ça par courriel. Disons, en quelque sorte, c'est un peu un manque de jugement de l'ensemble des choses, puis ça vient compromettre toute la stabilité d'une infrastructure à clé publique dans laquelle on utilise. Donc, c'est un élément très important à tenir en compte, puis il faut prendre de bonnes décisions pour les infrastructures qu'on a dans les différentes compagnies de venir faire très attention à ce genre de choses-là, puis à la conservation de la clé privée, qu'elle soit bien protégée justement pour maintenir la sécurité, en tout cas la solidité de cette infrastructure-là. Nouvelle suivante, GitHub a survécu à une des plus grosses attaques par des nids de services distribués qui a été jamais enregistrée. Ce sont principalement sortis par le fait qu'ils ont utilisé les services Akamai qui ont permis d'absorber le 1.3 terabytes de données dans lesquelles l'attaque s'est frappée GitHub. Ils ont réussi à tolérer ce degré d'attaque, ce qui est déjà une bonne chose, mais en même temps, c'est quand même épeurant de savoir qu'on est capable de générer des attaques à 1.3 terabytes par seconde de données vers un site spécifique. Semblerait que cette faille-là, attaque-là a été utilisée beaucoup le même cache, qui est une vulnérabilité qui a été trouvée pour des méthodes d'accélération sur des, l'utilisation de méthodes d'accélération sur des serveurs web, entre autres, qui malheureusement sont mal sécurisés et exposés à Internet. De là, ces systèmes-là peuvent générer des attaques asymétriques, c'est-à-dire que pour une petite requête, le serveur répond à un très gros message, donc de là, d'envoyer une petite requête pour solliciter des grosses réponses de ces serveurs-là va générer un volume de données qui est quand même substantiel, donc vient créer des problèmes. Et potentiellement, 2018 va être probablement jonché de problèmes de cette nature-là ou des attaques par des nids de service de façon aussi massive risque de revenir et de se repasser en ce moment-là. Fait que ce serait peut-être un moment d'avoir une réflexion sur les notions de santé publique, une approche de type santé publique où on va venir par débrancher les serveurs qui agissent de façon hostile, qui sont mal protégés, justement pour laisser la chance à l'ensemble de l'écosystème d'Internet de rester sain et de pas succomber à ce genre de choses-là aussi aisément que ça l'a pu à ce moment-là. Puis je pense que cela va s'accélérer avec les années, donc il y a peut-être un intérêt à agir de façon plus à la source, plus en amont, pour régler davantage les problèmes et régler les sources d'infection, les sources problématiques rapidement au lieu d'aller régler les problèmes en aval, c'est-à-dire une fois que le DDoS a lieu, de le régler de l'autre façon. Une avant-dernière nouvelle, puis un peu c'est un lien avec la première, c'est-à-dire Cisco a émis un avertissement de sécurité sur 22 systèmes, justement, qui, comme la nouvelle disait au début, qui ont des mots de passe codés en dur dans leur système. Donc, ces correctifs-là viennent régler la plupart des problèmes des mots de passe codés en dur dans leur système ou les mots de passe par défaut qui sont vulnérables et que les gens n'auraient peut-être pas changé dans les temps. Puis, en même temps, pour avoir de mon expérience personnelle, c'est pas tous les gens ou les organisations qui prennent le temps pour modifier les mots de passe par défaut par faute de temps, par faute d'argent, faute de compétences. Tout dépend là. Donc, c'est une situation qui est malheureuse, mais qui est quand même très, très connue. Et encore une fois, si les notions de santé publique pouvaient être appliquées à cette notion-là, c'est-à-dire que les systèmes qui deviennent fautifs viennent se faire débrancher du grand Internet, mais à ce moment-là, peut-être on atténuerait beaucoup des problèmes dans lesquels on vit à l'heure actuelle. Et finalement, une dernière nouvelle, qui celle-là est rapportée par Zataz, qui refait un retour sur un peu ce qui est en train de changer au niveau des mots de passe. Depuis déjà quelques mois, il y a des discussions qui sont faites, puis c'est le NIST, entre autres, qui est le porteur de ces discussions-là, où il y a une réévaluation des règles de conception des mots de passe. Où essentiellement, l'énoncé veut que on n'a plus besoin des mots de passe complexes comme ça nous a été longtemps vendu avec le degré de rotation, tout ça. Plus pour le volet entreprise, mais quand même pour l'ensemble, puisque c'était remarqué que ces règles-là ont été établies de façon relativement arbitraire ou mathématique, sans tenir compte du fait que on est des humains, que comme humains, on a des limitations de mémorisation, des limitations de capacité d'absorption de cet élément-là. Donc, la réflexion a été redémarrée à ce sujet-là, de changer les méthodes, utiliser des méthodes alternatives pour s'authentifier, utiliser des mots de passe non complexes, mais plus longs, utiliser une approche différente à l'authentification et s'assurer que on obtienne le bénéfice, c'est-à-dire que la chose est correctement protégée, mais ou du moins authentifiée à ce moment-là, tout en ne nuisant pas au plaisir ou à la capacité des individus à faire leur travail et avancer dans les différentes choses. Donc, c'est un compromis intéressant. Je vous inviterai, en tout cas, l'article de Zataz est fort intéressant à ce sujet-là. Puis le papier du NIST qui appuie ce genre de choses-là aussi est tout à fait très intéressant, puisqu'il relativise la complexité des mots de passe, puis arrive avec une approche un peu plus pragmatique que ce qu'on est habitué généralement de voir dans les différents documents ou en tout cas dans la rhétorique qu'on avait l'habitude de recevoir au point de vue de la sécurité. Donc, ça fait le tour des nouvelles pour cette semaine. C'est encore assez court quand je suis tout seul finalement, parce qu'il n'y a pas énormément de débats qui se passent et ma capacité d'émettre des commentaires ou des opinions a ses limites aussi. Donc, on se revoit la semaine prochaine.